Il se glissa contre elle. « Clarisse, ce n'est pas ton âme que je te demande. Voilà plus de 20 ans que toute ma vie tourne autour de cet amour. Tu es la seule femme que j'ai aimée. Déteste-moi, exècre-moi, ça m'est indifférent. Mais ne me repousse pas. Attendre, attendre encore un mois, non, Clarisse, il y a trop d'années que j'attends. »
Il osa lui toucher la main. Clarisse eut un tel geste de dégoût qu'il fut pris de rage et s'écria
« Oh, je te jure, Dieu la belle, que le bourreau n'y mettra pas tant de forme quand il empoignera ton fils. Et tu fais des manières. Mais pense donc, cela se passera dans 40 heures. 40 heures, pas davantage. Et tu hésites, et tu as des scrupules alors qu'il s'agit de ton fils. Allons, voyons, pas de pleurnicherie, pas de sentimentalité stupide. Regarde les choses bien en face. D'après ton serment, tu es ma femme, tu es ma fiancée, dès maintenant. Clarisse, Clarisse, donne-moi tes lèvres. »
Elle le repoussait à peine, le bras tendu mais défaillante. Et avec un cynisme où se révélait sa nature abominable, Daubrecq, entremêlant les paroles cruelles et les mots de passion, continuait.
Oh, sauve ton fils. Pense au dernier matin, à la toilette funèbre, à la chemise qu'on échancre, aux cheveux que l'on coupe. Oh, Clarisse, Clarisse, je le sauverai, sois-en sûre. Oh, toute ma vie t'appartiendra. Clarisse.
Elle ne résistait plus. C'était fini. Les lèvres de l'homme immonde allaient toucher les siennes, et il fallait qu'il en fût ainsi. Et rien ne pouvait faire que cela ne fût pas. C'était son devoir d'obéir aux ordres du destin. Elle le savait depuis longtemps. Elle comprit, et en elle-même, les yeux fermés pour ne pas voir l'ignoble face qui se haussait vers la sienne, elle répétait
« Mon fils, mon pauvre fils !»
Quelques secondes s'écoulèrent, 10, 20 peut-être. Daubrecq ne bougeait plus. Daubrecq ne parlait plus. Et elle s'étonna de ce grand silence et de cet apaisement subi. Au dernier instant, le monstre avait-il quelques remords? Elle leva les paupières. Le spectacle qui sourit à elle la frappa de stupeur. Au lieu de la face grimaçante qu'elle s'attendait à voir, elle aperçut un visage immobile, méconnaissable, tordu par une expression d'épouvante extrême, et dont les yeux, invisibles sous le double obstacle des lunettes, semblaient regarder plus haut qu'elle, plus haut que le fauteuil où elle était prostrée. Clarisse se détourna. Deux canons de revolver, braqués sur Daubrecq, émergeaient à droite, un peu au-dessus du fauteuil. Elle ne vit que cela. Ces deux revolvers énormes et redoutables, que serraient deux poings crispés. Elle ne vit que cela et aussi la figure de Daubrecq que la peur décolorait peu à peu, jusqu'à le rendre livide. Et presque en même temps, derrière lui, quelqu'un se glissa, qui surgit brutalement, lui jeta l'un de ses bras autour du cou, le renversa avec une violence incroyable et lui appliqua sur le visage un masque d'ouate et d'étoffe. Une odeur soudaine de chloroforme se dégagea. Clarisse avait reconnu M. Nicole.
« À moi, grognard! À moi, le balu! Lâchez vos revolvers! Je le tiens! Ce n'est plus qu'une loque. Attachez-le !»
Daubrecq, en effet, se repliait sur lui-même et tombait à genoux, comme un pantin désarticulé. Sous l'action du chloroforme, la brute formidable s'effondrait, inoffensive et ridicule. Grognard et le balu le roulèrent dans une des couvertures du lit et le ficelèrent solidement.
« Ah ! Ça y est, ça y est !»
clama Lupin en se relevant d'un bond. Et par un retour de joie brusque, il se mit à danser une gigue désordonnée au milieu de la pièce. Une gigue où il y avait du cancan et des contorsions de machiche, et des pirouettes de derviche tourneur, et des acrobaties de clown, et des zigzags d'ivrogne. Et il annonçait, comme des numéros de music-hall,
« La danse du prisonnier, le chahut du captif, fantaisie sur le cadavre d'un représentant du peuple, la polka du chloroforme, le double Boston des lunettes vaincues, olé, olé, le fandango du maître chanteur, et puis la danse de l'ours, et puis la tyrolienne. » Allons enfants de la patrie, la la la, et dim boum boum, et dim boum 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 boum.
Toute sa nature de Gavroche, tous ses instincts d'allégresse, étouffés depuis si longtemps par l'anxiété et par les défaites successives, tout cela faisait irruption, éclatait en accès de rire, en sursaut de verve, en un besoin pittoresque d'exubérance et de tumulte enfantin. Il esquissa un dernier entrechat, tourna autour de la chambre en faisant la roue, et finalement se planta debout, les deux poings sur les hanches et un pied sur le corps inerte de Dobrec.
Tableau allégorique. L'archange de la vertu écrasant l'hydre du vice.
Et c'était d'autant plus comique que Lupin apparaissait sous les espèces de Monsieur Nicole, avec son masque et ses vêtements de répétiteur étriqués, compassés et comme gênés dans ses entournures. Un triste sourire éclaira le visage de Madame Mérimée. Son premier sourire depuis des mois et des mois. Mais tout de suite, reprise par la réalité, elle implora
« Je vous en supplie, pensons à Gilbert. »
Il courut à elle, la saisit à deux bras et, dans un mouvement spontané, si ingénu qu'elle ne pouvait qu'en rire, il lui appliqua sur les joues deux baisers sonores.
« Tiens, la dame, voilà le baiser d'un honnête homme. Au lieu de Dobrec, c'est moi qui t'embrasse. Un mot de plus et je recommence, et puis je te tutoie. Fâche-toi si tu veux. Ah, ce que je suis content !»
Il mit un genou à terre devant elle et respectueusement
« Je vous demande pardon, madame. La crise est finie. »
Et se relevant, de nouveau narquois, il continua tandis que Clarisse se demandait où il voulait en venir.
« Madame Désir, la grâce de son fils peut-être. Adjugé. Madame, j'ai l'honneur de vous accorder la grâce de votre fils. » La commutation de sa peine en celle des travaux à perpétuité et, comme dénouement, son évasion prochaine. Et c'est convenu, hein, grognard ? Convenu, le balu ! On s'embarque pour Nouméa avec le gosse et on prépare tout. Ah, respectable Dobrec ! Nous t'en devons une fière chandelle. Et c'est bien mal te récompenser.
Oh, mais aussi à vous que tu en prenais par trop à ton aise. Comment ? Traiter ce bon monsieur Lupin de collégien, de pauvre air, et cela pendant qu'il écoute à ta porte?
Le traiter d'illustre fantoche? Dis donc, il me semble que l'illustre fantoche n'a pas mal manœuvré, et que tu n'emmènes pas très large, représentant du peuple. Non mais quelle binette!
Quoi? Qu'est-ce que tu demandes?
Une pastille de Vichy? Non? Une dernière pipe peut-être?
Voilà, voilà, voilà. Il prit une des pipes sur la cheminée, s'inclina vers le captif, écarta son masque et entre ses dents introduisit le bout d'ambre.
Aspire, mon vieux, aspire.
En vrai, est-ce que tu as une drôle de tête? Avec ton tampon sur le nez et ton brûle-gueule au bec.
Allons, aspire, crebleu.
Ah, oh, mais j'oubliais de la bourrer, ta pipe. Où est ton tabac? Oui, ton Maryland préféré.
Ah, voici.
Il saisit sur la cheminée un paquet jaune, non entamé, dont il déchira la bande.
« Le tabac de monsieur. Ah, attention, l'heure est solennelle. Bourrez la pipe de monsieur, fichtre. quel bonheur! Qu'on suive bien mes gestes. Rien dans les mains, rien dans les poches. »
Et il ouvrit le paquet, et à l'aide de son index et de son pouce, lentement, délicatement, comme un prestidigitateur qui opère en présence d'un public ébahi et qui, le sourire aux lèvres, les coudes arrondis, les manchettes relevées, achève son tour de passe-passe, il retira d'entre les brins de tabac un objet brillant qu'il offrit au spectateur. Clarisse poussa un cri. C'était le bouchon de cristal. Elle se précipita sur Lupin et le lui arracha.
« C'est ça, c'est ça. Celui-là n'a pas d'éraflure à la tige. Et puis, tenez, cette ligne qui le scinde par le milieu, à l'endroit où se terminent les facettes d'or. C'est ça, il se dévisse. Ah, mon Dieu, je n'ai plus de force. »
Elle tremblait tellement que Lupin lui reprit le bouchon et le dévissa lui-même. L'intérieur de la tête était creux, et dans ce creux, il y avait un morceau de papier roulé en forme de boulette.
« Le papier pelure, »
dit-il tout bas, ému lui aussi et les mains frémissantes. Il y eut un grand silence. Tous les quatre, ils sentirent leur cœur prêt à se rompre, et ils avaient peur de ce qui allait se passer.
« Je vous en prie, je vous en prie. »
Lupin déplia le papier. Des noms étaient inscrits les uns sous les autres.
Il y en avait 27. Les 27 noms de la fameuse liste. Langeroux, De Chaumont, Voranglade, D'Albufex, Laybach, Victorien Mergy, etc. Et en dessous, la signature du président du conseil d'administration du canal français des Deux Mers. La signature couleur du sang.
Lupin consulta sa montre.
Il n'est en moins le quart. Nous avons 20 bonnes minutes. Mangeons.
Mais n'oubliez pas,
je meurs de faim.
Il s'assit devant le guéridon, se coupa une large tranche de pâté et dit à ses complices.
Grognard, le balut, on se restaure?
Pas de refus, patron.
Alors faites vite, les enfants. Et par là-dessus, un verre de champagne. C'est le chloroformé qui régale. À ta santé, Dobrec.
Champagne doux? Champagne sec? Extra dry?